Bienvenue dans Radiopium, votre dose d'opium philosophique. Vous nous écoutez sur Radio Campus Paris, sur le 93.9 FM.
L'homme refuse le monde tel qu'il est, et pourtant, il n'accepte pas de lui échapper.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle.
Cet amour-passion est effectivement un amour qui souffre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Radiopium, votre émission de philosophie, que dis-je, votre dose d'opium philosophique. Dans cette deuxième émission, nous nous intéressons à la notion d'accident. On s'était quitté sur un premier épisode qui s'interrogeait sur ce qu'était la philosophie. Et alors là, vraiment, je dois dire qu'avec la notion d'accident, on est vraiment en plein dans une question des plus philosophiques qui soient, puisque le concept d'accident est une question ontologique, une question qui porte sur l'être. Et le champ de la philosophie qui s'intéresse à cette question, en général, on appelle ça la métaphysique. Donc on est vraiment... On peut pas faire plus philosophique que ce sujet. C'est assez drôle parce qu'après avoir conclu en disant que la philosophie pouvait toucher à tout, finalement, avec cette deuxième émission, on fait une émission très, très philosophique. Enfin, en tout cas... thématiquement philosophique. Comme je vous l'ai dit, c'est une question que se pose la métaphysique et en fait l'ouvrage, le premier ouvrage qui porte ce titre, bien qu'il n'ait pas été donné par Aristote lui-même, c'est la métaphysique. Et dans la métaphysique, Aristote définit l'accident comme ce qui est séparable de... l'essence, mais qui se rapporte à la substance. Donc, ça n'est pas, l'accident n'a pas de cause, mais il est une propriété de l'être. Il est ce qui, dans l'être, peut ne pas être. Donc, ce qui se rapporte à la substance, mais s'oppose à l'essence. L'essence étant la définition, si vous voulez, de l'être. Donc, l'accident, c'est ce qui est contingent et instable dans l'être. Donc pour donner un exemple, il est dans la définition des hommes de posséder des yeux, par exemple, mais la couleur des yeux est un accident. Que Marianne ait des yeux bleus, verts, est accidentel, que Tibor ait des yeux marrons est accidentel, voilà, vous m'avez compris. Donc voilà ce qui définit le sens de l'accident à partir d'Aristote. Cependant, on voit bien que dans le langage courant, c'est pas du tout en ce sens-là qu'on prend la notion d'accident. On parle d'accident généralement lorsque un événement fortuit nous concerne et provoque un effet remarquable. Que cet effet soit heureux ou malheureux, ça n'est pas la question. Mais c'est en tout cas quelque chose qui, en général, quand même bouleverse le cours des choses, qui marque une rupture tout de même. Tandis que dans le langage courant qu'on fait du terme, il reste l'idée que tout de même l'accident est quelque chose de plutôt négatif. Quelque chose qui va... peut-être parce que, justement, il signe le fait qu'on ne puisse pas le contrôler. On a tendance à en avoir une conception plutôt négative, comme ce qui interfère dans ma vie, ce qui arrive par hasard. Un accident de travail, c'est profondément négatif et ça n'est pas du tout désiré. Hein. L'accident, c'est quand même une chose qui n'est pas désirée, que je ne souhaite pas, qui n'est pas voulue, qui arrive de manière surprenante, imprévisible, inattendue et qu'on cherche tout de même, en général, à éviter. pour s'assurer du contrôle sur les choses et pour s'assurer tout simplement de préserver la sécurité des biens et des personnes, par exemple. Voilà, donc ça c'est pour un peu, voilà, faire la part des choses entre ce qui relève de la définition philosophique et de la définition de sens commun. Maintenant, pour un peu élargir les perspectives, et puis pour montrer qu'en fait la philosophie ne fournit pas qu'une seule définition de l'accident, puisqu'il y a aussi différents courants de philosophie, comme on a voulu le montrer dans notre premier épisode, je voudrais simplement esquisser le point de vue des sophistes, hein, par exemple, d'accord, donc dans l'Antiquité, donc les sophistes vont, eux, défendre l'idée que l'être n'est qu'accident, sans aucun sujet fixe permanent auquel on peut le rapporter. Donc c'est pour ça que il n'y a pas de vérité, puisque en fait la vérité du discours pour les sophistes, c'est en fait l'accident qui fait qu'on va adhérer ou pas à un discours de par les qualités intrinsèques à l'orateur et à sa rhétorique propre. Donc finalement, tout n'est qu'accidentel c'est au contraire une voie tout à fait, enfin quand même assez radicale, tandis que chez Aristote, il préserve l'idée qu'il y a de la nécessité, hein, qu'il y a différents types d'êtres, qu'il y a quand même une équivocité de l'être. L'être peut se dire en plusieurs sens, mais tout de même, il y a une essence. Hein. Les hommes ont une nature, et c'est que les hommes sont des animaux raisonnables, il y a tout de même une essence. Maintenant, il fait quand même la part à l'accident en disant que, effectivement, l'accident existe. Et que il fait partie de la pensée de la substance et que il faut l'accepter parce que ontologiquement il existe. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut définir l'accident en guise d'introduction. Ensuite, dans cet épisode, on s'intéressera à la notion d'accident d'un point de vue existentiel avec notre invité Austin Rally, qui va aborder avec nous le rapport de Camus à l'accident, à la fois à titre bibliographique, mais aussi dans sa littérature. Ensuite, avec Tibor, il s'intéressera à l'héritage qu'a pu laisser Camus à sa fille, Catherine Camus, qui a porté l'édition de nombre de ses ouvrages. Donc il voudra mettre en lumière son action. Et enfin, Marianne abordera la question de l'accident justement dans la perspective de la liberté, en se questionnant aussi sur notre volonté d'écarter l'accident, notre volonté de contrôle et de maîtrise sur les choses dans une société post-industrielle, si on peut la qualifier comme ça en tout cas. Voilà pour le programme des réjouissances de ce deuxième épisode. Bonne écoute.
Vous écoutez Radio Pium, un vendredi sur 4 à 14h sur Radio Campus Paris.
Et nous avons la joie, pour poursuivre notre émission sur l'accident, d'avoir un invité pour ce deuxième épisode. Bienvenue dans Radio Pium, Austin Rally, bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Vous êtes professeur agrégé de philosophie et vous avez un parcours académique qui pourra, qui sait, inspirer nos auditeurs et auditrices, puisque vous avez étudié sur les bancs de Sciences Po Paris, où vous sortez diplômé en affaires publiques, avant de rejoindre la Sorbonne en philosophie. En parallèle, vous avez étudié l'arabe littéral et les relations internationales à l'INALCO. Après un passage de plusieurs années en cabinet ministériel, vous retrouvez l'enseignement de la philosophie et êtes l'auteur de plusieurs articles avec, nous semble-t-il, un intérêt particulier pour Camus.
Absolument.
Qui, nous aussi, va nous intéresser aujourd'hui. Alors, Gabriel, je te laisse la parole.
Merci, Lila. En préparant cette émission, j'ai eu la curiosité de lire un article qui a été publié quelques jours après la mort d'Albert Camus, par l'écrivain et académicien Émile Henriot, qui fait donc l'éloge de l'écrivain, de sa philosophie, et qui note voilà, cette mort stupide, dit-il, suite à un accident automobile. Et je n'ai pu m'empêcher de remarquer qu'à la fin de son article, il y avait cette phrase qui, je crois, va être éclairante pour notre discussion. Donc, je le cite. « Et sa mort même donne à réfléchir. Si l'étranger avait raison sur la cruauté et l'absurdité du destin aveugle qui semble s'être plu à fournir le titre, qui aurait pu être, selon son style, celui de son dernier livre, de point, L'accident. » Avant de se demander s'il y a peut-être une philosophie de l'accident dans l'œuvre d'Albert Camus, est-ce que finalement aussi, au-delà de son terme, la vie d'Albert Camus n'est pas celle d'une vie d'un homme accidenté ? Est-ce qu'on n'a pas un parcours d'accident qui aurait été structurant pour l'homme et pour l'œuvre aussi ?
Absolument. La formule que vous avez énoncée me semble tout à fait parlante. L'accident me semble à la fois premier dans sa vie et puis aussi marque le terme de sa vie. C'est d'autant plus absurde d'ailleurs et regrettable cet accident de voiture qu'il avait en sa possession des tickets de train. Il a choisi au dernier moment de ne pas prendre le train et de prendre la voiture avec son ami Gallimard. Mais oui, quand on revient aux origines de Camus, Camus est quelqu'un qui grandit dans un milieu assez misérable et assez malheureux. Bah, malheureux pourquoi ? Parce qu'il perd son père assez jeune, hein, à moins d'un an, son père qui va mourir lors de la bataille de la Marne en 1914, dans une guerre assez absurde, dans la mesure où il meurt pour la France, pour la métropole française, une France qu'il n'a pas connue. Et sa mère était sourde-muette, analphabète, son mutisme en raison d'une méningite mal soignée. Il vit dans des conditions misérables, ils sont à 5 dans un studio avec une grand-mère assez violente. Je crois que Camus... de cet accident, si j'ose dire, de naissance, tirera une philosophie de la justice sociale. En gros, de parler au nom des misérables. Vous savez, il y a une expression de Bourdieu qui parle de miraculés à propos de ceux qui sont accidentés socio-économiquement. Bah, on peut dire qu'en cela, Camus a été miraculé. Et puis, si on voulait filer la métaphore de l'accident, Camus a été diagnostiqué de la tuberculose à 18 ans. Donc, toute sa vie, il aura... cette épée de Damoclès au-dessus de la tête hein, de la tuberculose, et ça explique sans doute sa philosophie d'une vie jouissive, en tout cas d'une forme d'hédonisme, d'une intensité hein, vitale qui le caractérise. Et puis, on aura aussi, je pense, l'occasion d'y revenir, mais Camus est quelqu'un qui grandit dans le premier XXe siècle, donc dans un siècle de guerre, donc d'accident de l'histoire, et c'est quelqu'un qui va écrire des articles contre le franquisme, contre la colonisation, qui va s'engager dans la résistance française. Là, on enregistre cette émission quelques jours après la commémoration du 8 mai, et puis qui va aussi s'engager contre le goulag et contre le totalitarisme stalinien. Donc c'est quelqu'un qui va subir des accidents dans sa vie, mais je crois que sa force, c'est qu'il va essayer de sublimer, de transcender, de dépasser ses accidents pour affirmer sa liberté, sa subjectivité et sa philosophie.
Tout à fait. Et est-ce que, justement, cette sublimation, elle s'incarne concrètement dans la philosophie de Camus ? On n'a pas de livre qui s'appellerait « L'accident », comme le suggère l'éloge que j'évoquais dans Le Monde. Mais est-ce que, voilà, en filigrane, on n'a pas cela ? Parce que c'est vrai que quand on est confronté en tant qu'individu à un accident, on a une forme de réaction hypodermique. Pourquoi c'est arrivé ? Comment ? Est-ce que ça remet en cause tout ? Je relisais il y a quelques jours un poème d'Henri Michaux, qui revient sur un accident tragique qui est arrivé à sa femme, Marie-Louise, dont la robe a pris feu et qui l'a emmené à en mourir quelques mois plus tard. Et dans le recueil Émergence, Résurgence, Michaud écrit « Un accident, grave, très grave, touchant une personne qui m'est proche. Tout s'arrête, ça n'a plus beaucoup de sens. Le réel, l'autre réel, le réel de distraction qui n'a pas affaire à la mort. » Et moi, ça m'a fait penser à un passage dans le mythe de Sisyphe où Camus décrit l'absurde comme étant un divorce. Est-ce que, voilà, peut-être dans le mythe de Sisyphe ou d'autres œuvres, on a une philosophie qui se saisirait de l'accident ? Ou alors est-ce que ça transparaît à divers endroits ?
Alors, s'agissant des titres même, vous avez raison, il n'y a pas de titre chez Camus qui révèle la notion d'accident. Mais après, en y pensant, je pense à une pièce de théâtre de 1944 qui n'est malheureusement pas très connue, qui s'intitule « Le malentendu », le quiproquo, donc... en quelque sorte l'accident verbal, et ça raconte l'histoire d'une mère et d'une fille qui assassinent sans le savoir un homme qui se révèle être respectivement le fils et le frère des deux femmes, et les deux femmes vont se suicider en assumant en quelque sorte le caractère criminel de leur acte. Et puis vous avez un récit, d'ailleurs c'est assez intéressant que ça s'appelle un récit et pas un roman, qui est La Chute, hein, qui raconte le suicide d'une femme sur le Pont des Arts, sous-entendu les tentatives de suicide de la femme de Camus. Hein, il y a quelque chose de l'ordre du biopic dans ce récit autobiographique. Et ça raconte aussi la chute adamique, hein, c'est-à-dire le fait qu'on serait tous un peu pécheurs à la suite de la chute du paradis céleste. Mais pour en revenir à votre question, c'est vrai que le terme d'accident n'apparaît pas tellement chez Camus, mais je crois que c'est quand même présent dans la notion d'absurde. Pourquoi ? Parce que Camus définit l'absurde comme, au fond, un rapport déraisonnable, inadéquat entre le souhait de l'homme de voir un sens au monde et le monde qui répond aux abonnés absents. Donc, en somme, le sort de l'homme, c'est d'être jeté, d'être accidenté. En gros, la vie est une histoire malvenue, la vie est un accident pour Camus, dans la mesure où ce monde n'a pas de sens et rien ne justifie notre existence. Mais la force de Camus, c'est d'assumer cette notion d'accident, de ne pas la dissoudre dans une religion. Vous voyez, par exemple, dans les religions, il y a la notion d'épreuve. Il y a l'idée que, en gros, les accidents qui vous arrivent dans la vie ne sont pas très graves, puisque c'est Dieu qui vous teste. Et puis, de toute façon, il y aura le paradis pour vous sauver si vous comportez bien. Bon. Ou il y a aussi cette idée-là dans le marxisme, hein, autre religion du XXe siècle, où, oui, il peut y avoir des drames dans un régime, mais ce qui compte, c'est la société sans classe. Bon. Et au fond, on retrouve chez Camus... dans la notion d'absurde, le fait d'accepter que les accidents sont des accidents, qu'ils sont insensés, ne pas essayer de les justifier, ne pas essayer de les sauver, mais cependant assumer une forme de responsabilité pour l'homme de transcender cet accident. Ça peut être par l'engagement politique ou ça peut être par l'art.
Donc en fait, il y a un peu un refus du destin. Ça, l'histoire n'a pas de visée et donc l'homme doit lui-même se faire acteur de ces accidents qui lui arrivent. Notamment, vous parliez de la Seconde Guerre mondiale, c'est un accident, ou de la guerre d'Algérie, peut-être que vous pourrez y revenir aussi.
Ouais.
Et donc, est-ce que, voilà, y a une manière de réparer le caractère accidenté de l'existence humaine chez Camus, un passage de l'insensé, voire de l'absurde, qui est l'accident, au politique, dans lequel l'homme reprend, en fait, un contrôle sur le cours de l'existence et celui des choses.
Alors, le terme de réparer est intéressant. À titre personnel, je trouve que ça serait trop dire réparer, parce que vous voyez, dans réparer l'accident, il y aurait l'idée que l'accident serait soluble quand même dans quelque chose aurait un sens. Quand une voiture est accidentée, on la répare dans la mesure où on a une idée d'une voiture bien formée, d'une substance voiture, pour parler comme Aristote, qui est un peu le père de la notion d'accident en philosophie. Mais je parlerais plutôt, vous avez employé le terme de sublimation, je trouve que c'est un bon terme. Vous parliez de la politique, Camus va substituer au terme de révolution, qui est le terme marxiste, qui est un terme aussi sartrien, à savoir l'idée d'une violence politique qui permettrait de faire advenir une perfection sur cette terre, il va lui substituer un terme un petit peu désuet, un peu minoré, qui est le terme de révolte. Hein. Qu'est-ce que c'est que dans le dictionnaire, une révolte, c'est une révolution inaboutie, une révolution de rien du tout. Il va essayer de valoriser ce terme en montrant que certes, la révolte ne promet pas monts et merveilles, contrairement à la révolution, mais au moins, elle a le mérite de ne pas trahir, je dirais, ses idéaux. C'est-à-dire que Camus dénonce la révolution dans la mesure où, pour Camus, la fin ne justifie jamais les moyens. Et donc, un accident n'a pas à être réparé en vue de fin, mais plutôt à être accepté en tant que tel, et on doit accepter une forme de mesure par rapport à cela, ne pas dépasser certaines limites, ne pas justifier la fin les moyens au nom d'une fin, mais plutôt justifier la fin au nom de moyens dans le cadre d'une démarche qui soit non totalitaire ou non révolutionnaire. Et le terme de révolte, au fond, peut paraître un peu décevant par rapport au terme de révolution, mais si Camus le valorise, c'est parce qu'il cherche à accepter, à assumer la notion d'accident et à ne pas l'effacer dans une téléologie de l'histoire ou dans une forme de promesse paradisiaque.
Tout à fait, oui. Je pense que c'est en effet un thème qui peut transpirer dans la philosophie de Camus et qui nous ramène à la question qui est celle qu'on a aujourd'hui sur cette thématique de l'accident. Mais Camus, c'est aussi un écrivain, peut-être d'abord d'ailleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Absolument, vous savez, il y avait une formule qui était « si tu veux faire de la philosophie, écris des romans ». Il se définissait d'abord comme artiste avant de se définir comme philosophe.
Donc tout à fait. Et je pense que beaucoup de nos auditrices, de nos auditeurs ont découvert Camus, parfois en classe terminale, pour paraphraser Sartre. Et notamment à travers ces ouvrages. Est-ce qu'on a des personnages, des caractères, des thématiques dans ces romans qui pourraient se raccrocher à notre discussion ?
Absolument. Le roman le plus connu, je pense qu'on a tous lu, on l'a tous, j'espère, lu, c'est L'étranger. Et le personnage de Meursault incarne cela. Pourquoi ? Bah, rappelons-nous tous Linky Pitch, je pense qu'on le connaît par cœur, hein, à savoir aujourd'hui maman est morte, hein, à savoir cet accident tragique qui est la mort d'un proche. Bah, vous voyez que le personnage de Meursault dans L'étranger va assumer cet accident de vie, mais sans chercher à lui donner un sens, c'est-à-dire sans chercher à jouer la comédie qu'on attend du bon fils qui vient pleurer sur la tombe de sa mère. Hein, et ce personnage de Meursault sera jugé à la fin du récit parce qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Et puis, un peu plus tard dans le récit, ce même personnage de Meursault tue un arabe. Alors, il y a eu des controverses à la suite de cela, puisque bon, dans le roman, il tue l'arabe à cause du soleil qui blesse les yeux, mais on peut peut-être réfléchir sur le sens profond de ce meurtre. Mais toujours est-il que dans le roman, c'est un accident, c'est un malheureux quiproquo, mais qui prend la dimension d'un drame lors du jugement au tribunal. Mmh. Et on pourrait sans doute multiplier les exemples, mais je prendrai un deuxième exemple qui me paraît assez intéressant, qui est l'exemple du docteur Rieux, hein, dans La Peste, à savoir qu'on a affaire à un personnage qui est pris dans un accident de l'histoire, qui est la peste bubonique à Oran, qui bien sûr est une métaphore du fascisme, hein, ou de l'occupation allemande en France, mais qui va essayer de réduire, pour parler comme Camus, de réduire arithmétiquement les souffrances du monde. Et ce qui est assez intéressant dans La Peste, c'est qu'on a divers personnages pris dans une même galère, dans un même accident qui est cette peste, mais qui vont réagir différemment. Certains seront courageux, certains vont essayer de mimer l'indifférence, certains seront lâches. Bon. Et ça montre assez bien que l'accident n'est pas forcément un fatalisme, dans la mesure où certes, on subit les accidents dans la mesure où on n'a pas choisi de naître dans ce monde, on n'a pas forcément choisi notre époque, mais on choisit tous la manière de se comporter ou le sens qu'on donnera aux actions que l'on fera dans ce monde.
Et du coup, si on se fait camusien, quelle est la réaction face à l'accident? Est-ce que c'est voilà, du courage? Est-ce que c'est une révolte? Comment un camusien réagit face à un accident, qu'il soit personnel ou de l'histoire? Quel est peut-être un bréviaire de l'accident selon Camus?
Alors, je dirais que l'adjectif qui me vient à l'esprit quand vous me posez cette question, si c'était que je sois capable moi-même d'y répondre, ou si je suis camusien, en tout cas je fais profession de l'être, c'est le terme de tragique. Hein, qu'est-ce que c'est que le tragique dans la pensée grecque, et puis chez Nietzsche, qui a beaucoup influencé Camus? Bah, c'est l'idée d'une contradiction inhérente au monde, c'est-à-dire que le monde est beau. Il y a une phrase de Camus que je trouve très belle qui est « Le monde est beau et en dehors de lui, point de salut ». Mais en même temps, il y a une forme de malheur qui accompagne cette joie dans l'existence. Donc il y a cette idée d'une limite que doit assumer l'homme, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas tout. Nos proches vont mourir, je vais mourir, je ne peux pas réduire géométriquement, totalement, absolument les souffrances dans ce monde. Mais cette résignation face au cosmos ne doit pas me rendre paresseux, elle ne doit pas me faire renoncer à la réduction arithmétique, minime, certes, modeste, mais tout de même patente, tout de même pondérable, tout de même tangible, des souffrances. Donc je dirais qu'être camusien, c'est être conscient de ses limites, mais ne pas s'en servir comme d'un prétexte à lâcheté.
C'est un vaste programme, et je pense que... Au moins, il nous inspirera. En parlant d'être inspiré, vous nous avez proposé d'écouter un passage de L'étranger de Camus, justement, ce fameux passage de la mort de l'arabe qui coupe à la fois la vie de Meursault et la structure de l'ouvrage L'étranger. Donc, je vous propose de l'écouter maintenant.
Et je vais en proposer une lecture.
Avec plaisir.
J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire. Et ce serait fini. Mais toute une plage, vibrante de soleil, se pressait derrière moi. J'ai fait quelques pas vers la source. L'arabe n'a pas bougé. Malgré tout, il était encore assez loin. Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l'air de rire. J'ai attendu. La brûlure du soleil gagnait mes joues, et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman, et comme alors, le front surtout me faisait mal, et toutes ces veines battaient ensemble sous la peau. À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas. Mais j'ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier, et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, La sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et, indistinctement, le glaive éclatant jaillit du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil, j'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors, j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte, où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. Est-ce que vous voulez réagir à cet extrait de La mort de l'arabe? Et enfin, cet extrait a une postérité puisqu'il a été repris par le groupe The Cure qui en a fait un titre, Killing an Arab. Mm-hmm. Et ici, bon, on peut évidemment imaginer des causes plus structurelles du fait voilà, du racisme, du colonialisme, etc.
Absolument.
Mais enfin, tout à fait, si on s'en tient au texte, rien qu'au texte, on a l'impression d'une vision brouillée par le soleil, mm-hmm. les larmes, la tension. Mm-hmm. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Cette plage m'évoque des souvenirs. C'est le même soleil, c'est la même tension, la même intensité que lorsque j'ai perdu ma mère. Mm-hmm. Et tout d'un coup, j'y vais.
J'ai beaucoup aimé votre lecture parce qu'il y avait une neutralité dans le ton qui correspond assez à la neutralité à la fois dans le texte et puis du style dans l'ouvrage. Vous savez, on dit souvent de l'étranger que c'est le roman du passé composé. Et ce qui est assez marquant dans votre lecture, c'est qu'il y a une forme de neutralité du récit alors que ce qui se passe est assez terrible puisqu'on parle d'un assassinat. Moi, je dirais ce que ça évoque tout d'abord en tant que Camusien. Après, on peut peut-être critiquer Camus, ou en tout cas prendre ses distances avec Camus, c'est peut-être lui être fidèle d'une autre manière que de procéder de la sorte. C'est d'abord, en étant Camusien, une forme d'assomption de la fatalité ou d'assomption du tragique. C'est-à-dire que ici, le personnage commet un geste qui se fait dans une forme d'ordre cosmique. C'est comme si le soleil lui ordonnait fatalement de tuer cet arabe, avec la même fatalité que celle naturelle de sa mère, puisque sa mère meurt a priori de vieillesse, en tout cas nous dit le début du roman. Donc on a, si vous voulez, cette forme d'acceptation de la nécessité, cette forme de résignation, si je voulais prendre un terme spirituel. Et à aucun moment le narrateur cherchera à trouver des excuses. Vous voyez bien que dans la lecture que vous en avez faite, il n'y a pas d'excuses racistes ou d'excuses autres, psychologiques.
Oui,
puisque quelques minutes avant, quelques temps avant la mort de cet arabe, il y a toute une affaire de proxénétisme. Cet arabe serait l'ami d'un frère dont la sœur a été mise à la prostitution par un souteneur colon. Bon. Donc on n'a pas ça, on a juste une description crue, une description, si je voulais employer un terme philosophique, phénoménologique. C'est-à-dire on décrit simplement les phénomènes tels qu'ils sont, et on les prend pour ce qu'ils sont. Après, là où ce texte est un peu embêtant ou un peu gênant, c'est que si on l'inscrit dans l'œuvre générale, dans l'économie générale de l'œuvre de Camus, cet arabe n'a pas de nom. En général, les arabes n'ont pas de nom dans les textes de Camus. Mm. On a une forme comme ça un peu générale arabe sans qu'on leur donne une religion particulière ou sans qu'on distingue vraiment les arabes des Kabyles. À chaque fois, l'arabe semble être un élément du décor. Et ça, je pense à un écrivain comme Kateb Yassine, un écrivain algérien, qui va dénoncer ça chez Camus en disant que la différence entre Camus et Faulkner, les deux étaient amis, hein. Camus admirait énormément Faulkner, il va mettre en scène au théâtre un de ses écrits, c'est que chez Faulkner, les Noirs ont un prénom. Faulkner connaissait les Noirs, il leur donne une vraie densité, un vrai caractère, ce sont des vrais personnages, tandis que chez Camus, ça semble à chaque fois des faire-valoir ou des éléments un petit peu du décorum colonial, décorum oriental. Donc je dirais que d'un côté, le texte que vous avez lu est absolument fidèle à la pensée camusienne du tragique, ne pas se dérober devant l'ordre du monde et accepter le fait qu'on soit une poussière de cosmos dans un un devenir à la fois innocent et tragique. Mais si on prend le recul, puis aussi le recul de notre époque, puisqu'on est 61 ans après l'indépendance algérienne, bah, on est forcément gêné de ce deux poids, deux mesures, je dirais, entre des personnages coloniaux mis en avant et des personnages indigènes en retrait.
Bien sûr.
Alors, peut-être en conclusion, pour sortir d'une vision de l'accident comme un drame ou comme le tragique, je pense que si la vie dépose sur nos chemins des accidents heureux, c'est parfois des rencontres, alors des rencontres humaines, mais aussi des rencontres intellectuelles. Et je voudrais vous poser une dernière question, c'est justement cette rencontre avec Camus, comment s'est-elle faite ? Est-ce qu'on est sur une rencontre scolaire qui donc du coup n'est pas proprement parlée accidentelle ? Ou est-ce qu'il y a un livre qu'on a déniché dans une bibliothèque familiale ? Est-ce qu'il y a des lectures secrètes ? Est-ce qu'on a ou une redécouverte peut-être ? C'est un auteur obligé sur lequel on revient un peu avec paresse parce que les études nous y poussent et qui finalement voilà, se provoque une vraie rencontre, un accident bienvenu dans notre vie.
Alors, j'ai lu Camus, j'ai presque envie de dire comme tout le monde, mais j'espère que ce n'est pas le cas, parce que chaque histoire camusienne est singulière, donc si elle venait à être générale, j'en serais un peu triste nécessairement. Mais je l'ai lu à 17 ans, je sortais du lycée, et quand on est jeune étudiant, on est un peu confronté à l'absurdité du monde, en tout cas on est confronté au fait de faire des choix. Hein, on sort du cursus honorum scolaire, on doit faire des études, donc à l'époque j'étais jeune étudiant à Sciences Po. Donc j'étais un peu confronté à l'absurdité au sens philosophique. Et donc j'avais découvert ce livre de Camus qui est Le mythe de Sisyphe. Et ce qui m'avait marqué, c'était à la fois trois choses. D'abord, ça peut sembler là aussi drôle, mais c'est la merveilleuse intelligence de ce philosophe. Et le fait qu'il... J'avais l'impression qu'il me parlait à moi. Alors que les philosophes que j'avais étudiés en classe de philo en terminale étaient... en général un peu ennuyeux. J'avais un cursus scientifique, donc c'était surtout des philosophes des sciences, donc un peu barbant. Bon. le deuxième point, c'est le fait qu'il refusait tout mythe, tout idéal transcendant, mais qu'il s'attachait à ce que Gide appelait les nourritures terrestres, à une forme de jouissance du monde. Et cet hédonisme-là me plaisait et m'apparaissait vraiment comme une planche de salut pour le jeune homme un peu anxieux que j'étais à l'époque. Et puis... un troisième point, c'était sa vie. Hein, la vie de Camus, je la connaissais très très mal avant de lire Le mythe de Sisyphe, et je m'étais un peu renseigné comme ça pas sur Internet, puis en lisant la biographie de Todd aussi, Albert Camus, une vie qui m'a beaucoup marqué, et je me rendais compte que c'était vraiment quelqu'un qui prêchait d'exemple, pour parler comme Nietzsche. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, dans sa vie, avait réalisé en quelque sorte sa philosophie. Quand j'étais un peu plus jeune, je me méfiais toujours des philosophes, notamment de Sartre, parce que c'était des personnes qui avaient un langage un peu ambigu, qui professaient certains actes vertueux, mais qui ne les réalisaient pas concrètement. Il y avait toujours une dissonance entre les paroles et les actes. Bon, il n'y avait pas ça. Chez Camus, c'était un homme qui parlait vrai, en quelque sorte, et qui agissait vraiment. Donc ça a été vraiment un exemple pour moi. Voilà, pour ne rien vous cacher, quand j'étais jeune étudiant, j'avais un poster de Camus dans ma chambre, donc j'étais vraiment un fan, comme on dit, avec tout ce que ça a de clichés. Toujours est-il que c'est quelqu'un que j'ai énormément lu, je dirais jusqu'à mes 19-20 ans. Je l'ai un peu moins lu après pour m'attacher à d'autres philosophes, bien que certains soient un peu adjacents. J'ai lu Sartre, j'ai lu Heidegger, j'ai aussi lu les Grecs. À la suite de Camus, et en ce moment je prépare un essai sur Camus, donc j'y reviens depuis maintenant quelques années, et j'enseigne dans un lycée qui est le lycée de la Légion d'honneur, et j'ai une de mes élèves qui a monté un atelier philosophie autour de Camus, donc c'est aussi l'occasion parmi la jeune génération qui s'approprie de manière différente, déjà entre ma génération et la génération des 17-18 ans aujourd'hui, je vois déjà une sorte de gouffre sur les problématiques politiques et le réveil à certaines thématiques. Ben, on peut discuter voilà, de Camus, le critiquer, et le fait d'y revenir maintenant me permet à la fois de jeter un regard nouveau et puis de voir le chemin parcouru depuis, je dirais, mes jeunes années estudiantines.
Très intéressant, bah, merci beaucoup.
Merci à vous, c'est moi qui vous remercie.
Très intéressant d'avoir un point de vue singulier sur ce qu'est la philosophie. Merci aussi pour cet échange autour de Camus et sur son rapport à l'accident. On est très content d'avoir un invité pour cette deuxième émission, donc merci à vous d'avoir occupé cette place.
Tout plaisir était pour moi.
Très bien, merci beaucoup, merci aussi Nrali. L'interview que nous avons menée avec Hossein Rally sur le lien entre Camus et l'accident et son rapport à l'accident a donné une idée de chronique à Tibor. Effectivement, comme on a évoqué sa biographie, après un accident de la route qui lui a été fatal, Albert Camus n'a pas seulement laissé un manuscrit inachevé, celui du premier homme, il a aussi laissé des enfants, deux jumeaux, Jean et Catherine. Et Tibor, tu voulais nous parler de cette dernière, Catherine Camus. Avec toi, nous allons voir ce qu'ont été les conséquences de l'accident mortel d'un père pour sa fille. Qu'est-ce que cela signifie d'hériter d'un livre inachevé ? Plus encore, quelles traces laissons-nous une vie interrompue brutalement, de façon imprévisible ? Est-ce que la mort d'un proche nous lègue une succession, nous plaçant dans la situation d'ayant droit, ou plutôt dans celle d'un ayant devoir, obligé par un devoir d'honorer la vie de la personne disparue. Quand cet héritage est littéraire et que l'écrivain n'a pas laissé de consigne, ne sachant pas qu'il allait mourir, que faire de cet héritage ? Nous allons voir avec toi les choix qu'a fait Catherine Camus par rapport à son père et à son héritage. Nous comprendrons notamment que les morts actives meuvent les vivants, ainsi que l'a magnifiquement démontré la philosophe Vinciane Després dans Les morts à l'œuvre. Tibor, on t'écoute.
Catherine. Ce n'est ni Catherine Hélène Sintès, la mère d'Albert Camus, ni l'actrice Catherine Sellers, qui eut pour amant ce dernier. Catherine, c'est la fille d'Albert, et de Francine Faure, pianiste mathématicienne, c'est Catherine Camus. Catherine est née en 1945, elle avait 14 ans, en 1960, lorsque son père est mort subitement et tragiquement, dans cette Facel Vega FV3B, conduite par Michel Gallimard, qui, lui aussi, 6 jours après l'accident, décède. Mais quel lien y a-t-il entre Catherine et Albert, plus précisément entre la vie de l'une et l'œuvre de l'autre ? Ça va venir, mais attardons-nous d'abord sur les conséquences qu'ont pu avoir un tel accident sur la vie de Catherine. À l'époque de l'accident, Catherine est adolescente et elle n'apprend qu'indirectement la mort d'Albert. allégeant son jumeau le devine par une multitude d'indices. Personne ne leur dit la vérité, d'autant plus qu'on les épargne de l'enterrement. La famille Camus se réfugie alors chez des amis, les enfants n'ayant pas le droit d'aller sur le balcon à cause des journalistes. Cela nous informe d'ailleurs sur l'engouement médiatique que peut provoquer un accident. Ici, un accident de voiture d'une personnalité qui l'a mené à sa perte. Mais il me semble que ce peut être le cas plus largement pour d'autres types d'accidents. Cet engouement, me paraît-il, est propre au fait que l'accident, par définition, n'était pas prévu. L'inattendu est source de curiosité. Bref, l'accident a engendré une étrange situation dans laquelle les journalistes en savaient plus que les enfants de celui dont la fin de vie accidentelle fut médiatisée. Les journaux en savaient trop quand les jumeaux n'en savaient rien. Les enfants ne savaient même pas que leur père était célèbre. Ce n'était qu'un papa, selon les dires de Catherine. Mais Catherine a bien fini par savoir qui était son paternel. Elle a même fortement contribué à consolider sa renommée. En effet, à 34 ans, lorsque sa mère Francine meurt, la sœur et le frère deviennent de fait détentrices et détenteurs du droit moral et patrimonial de l'œuvre de papa. Et là, Catherine fait quelque chose d'admirable. Elle laisse tomber son métier d'avocate, qu'elle venait tout juste de devenir. Elle avait même prêté serment le jour où sa mère était entrée à l'hôpital pour y mourir quelque temps après. Elle laisse donc tomber ça pour se consacrer pleinement à la gestion de l'œuvre d'Albert. Avec un tel nom de famille, il semble qu'elle n'avait pas le choix. C'est ce que son ironie révèle lorsqu'elle se dit être une ayant devoir plus qu'une ayant droit. Je vous l'avoue, pas d'Albert sans Catherine. Camus, c'est aussi Catherine Camus. Cette dernière a, entre autres choses, édité Le Premier Homme en 1994, le manuscrit retrouvé dans la Vega, Les Carnets, le troisième volume, ou encore La correspondance intime entre son père et Maria Cazares en 2017. Derrière le nom d'Albert Camus, n'aurait-on pas tendance à oublier Catherine ? N'est-ce pas ce que semble signifier cette dernière quand elle se décrit comme étant l'œuvre mineure d'Albert Camus ? Voilà ce que cela fait d'être enfant d'écrivain, d'écrivain reconnu. On vous oublie, vous n'êtes que la face cachée de ce dernier, vous marchez dans son ombre. Et pourtant, vous êtes une pièce essentielle de l'œuvre célébrée.
Merci Tibor pour cette mise en lumière de Catherine Camus, à qui l'on doit effectivement d'avoir mis en valeur des pans entiers de la production de Camus qui, sans elle, n'auraient pas la célébrité qu'ils ont eue. Donc merci beaucoup.
Vous écoutez Radio Piom, un vendredi sur 4 à 14h sur Radio Campus Paris.
Puisque l'accident peut être tragique, le pire accident possible étant une mort accidentelle, comme on a vu avec l'exemple de Camus, on peut être tenté de vouloir le supprimer à toute force, l'éviter, le mettre à distance. Ainsi, il existe même, et oui, une science de l'accident nommée accidentologie, apparue dans les années 1970. Elle consiste à analyser statistiquement les causes de l'accident pour tenter d'agir sur elles, en faisant de la prévention, notamment sur les causes. Et cette science porte plus précisément sur les accidents liés à la circulation. Et c'est vrai que quand on pense à l'accident, on pense très souvent aux accidents routiers. Et donc, ça va être par exemple le fait de faire de la prévention sur les causes des accidents routiers, c'est-à-dire les excès de vitesse ou par exemple la prise d'alcool ou d'autres substances. Donc, il y a cette tentation de mettre à distance l'accident, parce que l'accident fait signe vers quoi ? Il fait signe vers la mort, vers la possibilité qui est latente pour tout un chacun. Cependant, est-ce qu'on ne peut pas concevoir quand même un versant plus positif de l'accident ? Ce qui est contingent dans notre existence n'est en effet pas forcément mauvais pour nous. Et c'est ce que, Marianne, tu avais envie de défendre.
Alors aujourd'hui, on va se demander quelle place a l'accident dans notre société où, en fait, les progrès techniques ont permis de standardiser les productions, par exemple, et aussi de codifier encore plus la réalité, finalement. On voit en effet que le progrès en sciences, que les progrès techniques et technologiques tendent à éviter l'accident, à empêcher que quelque chose sorte du cadre. Et en fait, par exemple, dans le domaine de l'industrie, on veut avant tout produire plus vite et assurer le bon fonctionnement des chaînes de production. Donc en fait, on utilise des machines qui, justement, ont pour but de contourner la possibilité d'un accident dans une production qui serait humaine. Et donc, on se demande du coup si la conception de l'accident n'est pas uniquement négative. En fait, l'accident, eh bien, il apparaît comme quelque chose qui crée le désordre, qui ralentit la production, et donc en fait empêche de créer la certitude aussi en matière de science, par exemple. Mais justement, imaginons que nous parvenions à effacer la possibilité, eh bien, de l'apparition d'un accident dans nos vies, et donc de l'apparition de n'importe quel accident au sein de la société. Eh bien, cela engendrerait en fait le fait que l'on puisse tout prédire, que la réalité soit toujours la même. Et en cela, ne serait-ce pas aussi aller à l'encontre de la nature de l'homme ? Parce que, en fait, si on se penche sur la définition de l'accident en philosophie, eh bien, elle est tant positive que négative. En fait, l'accident, c'est avant tout un événement imprévu, qui sort du cadre, qui est surprenant. Mais donc, en fait, cette surprise, eh bien, elle peut finalement donner lieu à des opportunités positives et engendrer, oui, en fait, les conséquences de l'accident peuvent être tant bien amélioratives que péjoratives. Et donc en fait on va se pencher là sur la conception de Sartre dans L'être et le néant qui explique que l'accident met avant tout en avant la vulnérabilité de l'homme, parce qu'en fait l'accident peut bouleverser nos projets et certitudes à tout moment. Mais il insiste aussi sur le fait que l'accident permet à la personne d'exprimer sa liberté à travers le choix qu'il doit faire lorsqu'il se retrouve face à cet accident. Donc en fait la personne est libre de suivre le mouvement imposé par cet accident ou de réagir en s'y opposant, par exemple. Du coup, bah, en fait, l'accident est ici moteur de changement. Et ce, qu'il soit positif ou négatif, il permet d'évoluer et parfois même de sublimer la vie de la personne qui est confrontée. On peut penser à un accident amoureux, par exemple, en fait, une rencontre surprenante. Et donc, il nous rappelle en fait l'absence de prédictibilité du réel et de nos vies. Donc aussi, la liberté complète qui caractérise nos vies. Contrairement à la machine, en fait, l'homme ne peut pas effectuer un programme indéfiniment sans se tromper. Et en cela, l'accident apparaît comme un événement qui est proprement humain et qui exprime sa faillibilité. Et en fait, cet événement en lui-même a tendance aussi à inspirer les artistes. Et on peut par exemple se pencher sur le travail de Anne-Thérèse de Kersmaker son œuvre chorégraphique qui s'appelle Rosas, Danse Rosas, qui est une œuvre de danse contemporaine, où elle examine et elle explore la tension entre le contrôle et l'accident. Et donc on a d'abord affaire à une chorégraphie rigide, où la gestuelle est répétitive, industrielle, et qui nous évoque un peu en fait, le travail à la chaîne, mécanique, acharné. Et en fait, en même temps, on a des danseurs qui vont, à certains moments, effectuer des mouvements parasites au sein de cette chorégraphie. Ces mouvements vont interrompre, perturber la chorégraphie, et donc on va voir des danseurs qui vont s'échapper, glisser, tomber même, et donc faire des mouvements qui nous paraissent étranges en fait au sein de cette chorégraphie si cadrée. Et donc les accidents ici, on voit que c'est des accidents gestuels, et ces accidents créent du désordre au sein de quelque chose de très standardisé finalement. Et donc en quelque sorte ici la chorégraphe critique le contrôle absolu prôné notamment par les codes de la danse classique, et donc ici aussi par extension critique en un sens presque la déshumanisation et la rigidité du cadre industriel et des mouvements industriels, et donc aussi par extension le progrès technique. Et donc ici on a affaire à des accidents gestuels qui créent en fait finalement une nouvelle forme de beauté et donnent naissance à une grande œuvre de danse contemporaine qui est aujourd'hui reconnue et qui a vraiment marqué l'histoire de la danse. Et donc finalement ici on voit que c'est justement l'imprévu la capacité de l'accident à surprendre qui permet, et à se détacher aussi des standards ordonnés, qui permet de créer le nouveau et de créer une nouvelle forme de beauté originale, finalement. Et donc ainsi, on voit que l'accident dans sa dimension dysfonctionnelle permet de donner naissance à la nouveauté et donc de véritablement créer. Il permet la création. Et on peut dire que c'est ce qui nous sépare, en fait. C'est ce qui sépare l'homme de la machine qu'il crée. En fait, l'accident crée des ruptures dans l'ordre préétabli que, par exemple, une machine peut instituer dans un modèle de production, par exemple. L'accident, c'est en cela du coup, qu'il apparaît comme nécessaire, parce qu'en fait, il est moteur de changement. Et il nous offre une alternative, finalement, à la norme, nous montre d'autres modes d'existence aussi. Et donc, ça fait encore écho au mouvement parasite des danseurs de Rosas Danse Rosas, qui, voilà, en fait, en dansant d'une nouvelle manière, en introduisant des mouvements différents de la chorégraphie, nous montre comment on pourrait danser différemment. Et nous montre des alternatives, en fait. Et donc, finalement, tenter d'éviter l'accident, de le supprimer, ce serait peut-être nous figer dans notre quotidien formalisé, nous empêcher de nous en extraire et donc nous lier en quelque sorte aux machines qu'on a créées. Ouais, bon, ok, ça fait un peu penser à Transformers. Mais finalement, peut-être que c'est une idée comme une autre et peut-être que véritablement on tend vers cela. J'ai pas envie d'être pessimiste non plus. Mais voilà, tout ça pour dire que l'accident paraît nécessaire dans cette dimension-là. En fait, l'accident, même si il peut être autant négatif que positif, il reste nécessaire à la vie d'une personne car il est ce qui lui permet de concevoir des changements et des évolutions au sein de celle-ci. Et donc, ce qui lui permet en soi de progresser. Et donc, l'accident semble faire défaut au progrès technique, dans un sens, mais néanmoins nous aider aussi, il nous aide aussi à progresser dans l'existence car il nous permettrait d'exprimer notre liberté. Et donc, encore une fois, on pense à Sartre, que j'ai cité juste avant. Et donc, face à lui, nous faisons toujours un choix. Et c'est à travers ce choix qu'on va pouvoir exprimer notre indépendance. Et donc, finalement, l'accident, eh bien, il ne vaudrait peut-être mieux pas tenter de l'éviter systématiquement et de le supprimer, de supprimer sa condition, sa possibilité d'existence, parce que ça pourrait entraîner la disparition aussi de notre liberté en tant que personne.
Donc finalement, l'acceptation de l'accidentel dans nos vies, et peut-être même de l'erreur aussi, de l'erreur humaine, est essentielle. Et l'accident fait signe finalement vers la possibilité d'une alternative. Les choses peuvent être telles qu'elles sont, mais elles peuvent toujours aussi ne pas être telles qu'elles sont. Et c'est pour ça qu'il faut accepter l'accident, parce qu'il est la possibilité d'une alternative, finalement. Il fait signe vers une alternative. Donc pourquoi faut-il accepter la survenue de l'accident dans nos vies ? Eh bien parce que si tout était au contraire déterminé, alors le concept de liberté ne serait plus possible. Alors, amis auditeurs, acceptons avec Marianne les accidents dans nos vies pour rester toujours libres. Merci de nous avoir écoutés dans ce deuxième épisode de Radiopium. On espère que cette réflexion sur l'accident vous a plu, que ça a peut-être fait résonance avec votre propre vie d'une façon philosophique. On est très heureux d'avoir exploré un nouveau format, celui de l'interview. On espère que on a réussi à relever le défi de l'exercice, et on est toujours preneur de vos retours. Vous pouvez nous écrire à l'adresse opium.radiopium@gmail.com. Vous pouvez également nous retrouver non seulement sur Radio Campus Paris, le 93.9 FM, mais également sur nos réseaux sociaux. L'Instagram d'Opium Philosophie est là pour cela, et également Facebook et YouTube pour aller voir un petit peu le reste de l'activité de notre association. On remercie notre invité Ossine Rally et également nos chroniqueurs préférés de Radiopium, Tibor, Marianne, Gabriel et moi-même. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas qu'on est un vendredi sur quatre et que vous nous retrouvez pour votre dose d'opium philosophique. À très vite.